Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de votre hôte habituel Jean-Philippe et Marie-Lou est de retour avec nous aujourd'hui.
Oui, bonjour tout le monde, bien contente de vous retrouver.
Alors, qu'est-ce qu'on retrouve au menu de cet épisode-ci, Marie-Lou?
Donc, notre sujet principal pour aujourd'hui, c'est les jeux de contrôle de territoire. On va vous faire une petite chronique là-dessus, puis on va vous dire c'est quoi nos jeux préférés là, dans cette catégorie-là. On va aussi vous présenter rapidement nos derniers achats. On va vous parler de trois expériences de jeux qu'on a eues dernièrement. On vous présente aussi un projet québécois. Mais avant de commencer tout ça, Jean-Philippe va vous parler de quelques petites nouvelles dans le monde des jeux de société qu'il a préparé pour vous. Donc, je le laisse enchaîner avec ça.
Oui, je vais essayer de faire ça bref. J'ai quand même plusieurs nouvelles, des événements, des concours, plein de choses qui se passent ces temps-ci dans le monde ludique. Première nouvelle, c'est les candidatures pour le Plateau d'Or 2017. Le Plateau d'Or, en fait, c'est un prix qui est remis aux prototypes, développement de jeux là, qui se font au Québec. En fait, c'est un concours qui est plus québécois-Québec, là, la ville de Québec. Là. Mais on peut quand même venir d'ailleurs puis présenter notre jeu. Là. Et c'est organisé par les Journées ludiques de Québec, qui est un organisme à but non lucratif qu'on a déjà parlé dans le podcast. Et là, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 14 avril 2017. Donc, il reste à peu près un mois et demi là, pour soumettre votre candidature. Vous pouvez le faire là, directement via le site du Plateau d'Or, les Journées ludiques de Québec. On va mettre le lien là, dans la description du podcast. Et comme je disais, là, c'est vraiment pour les prototypes. Donc, c'est pas des jeux qui ont été déjà publiés. Donc, on vous invite à soumettre votre candidature si jamais vous avez des prototypes en développement. Il y a de très bons jeux là, qui ont gagné le Plateau d'Or, dont Québec, là, qu'on va... parler plus tard dans cet épisode-ci.
Oui, puis il me semble aussi qu'il y en a plusieurs qui ont gagné ce prix-là, que ça les a aidés par la suite vraiment beaucoup à pouvoir publier le jeu avec des éditeurs.
Oui, c'est ça. Donc, c'est un très beau concours, très belle initiative qui date depuis plusieurs années. Je crois que Québec, c'était en 2007, puis je pense que c'était dans les premières années du concours, là, si ma mémoire est bonne. Ensuite, côté ouverture de pub ludique, ça pousse en 2017, c'est fou. Là, c'est à Alma, donc au lac Saint-Jean. C'est le Malatesta qui est ouvert là, à peu près depuis une semaine. Là. Donc, si vous êtes dans cette région-là, ça vous intéresse les pubs ludiques, ben, il y en a un qui est ouvert là, juste pour vous. Et on va mettre aussi le lien là, vers la page Facebook là, pour que vous puissiez consulter ça. Donc, c'est le Malatesta. Ensuite, côté événement, il y a l'événement Montréal Joue qui regroupe jeux de société et jeux vidéo. Mais il y a quand même beaucoup d'activités là, pour les jeux de société. Puis j'en ai sorti quelques-uns là, qui vont se passer dans les prochaines semaines. Dont le plus gros par rapport aux jeux de société, c'est Jeux de société Montréal, qui est du 10 au 12 mars. C'est la deuxième édition. Et c'est au centre Pierre Charbonneau. Je pourrais pas vous dire c'est où pour ma part, mais si vous êtes dans le coin. Si vous connaissez, bon, c'est au centre Pierre Charbonneau, c'est gratuit. On parle de 600 places assises, donc c'est pas rien, c'est vraiment très gros. C'est en collaboration aussi avec le pub Randolph de Montréal. La programmation n'est pas encore révélée, mais il va y avoir des tournois, des activités ludiques, etc., plein de choses. Peut-être qu'au moment où on va sortir l'épisode, ça va être en ligne là, la programmation. Aussi, donc ça, le vendredi 10 mars, ça va être de 13h à 22h. Le 11 mars, c'est de 10h à minuit. Donc, quand même des belles plages de jeux. Puis le dimanche, c'est de 10h à 17h. Donc ça, c'est un gros événement. Autre événement qui, là, lui, les inscriptions sont terminées. Mais je voulais quand même vous le mentionner. C'est le 24h de conception qui va avoir lieu du 25 au 26 avril. Donc, en fin de semaine prochaine. De 13h à 13h, il y a des équipes de 3 personnes, donc un concepteur, un développeur et un illustrateur qui vont travailler sur le développement d'un jeu en 24 heures. Oh. Donc ça va être pas pire. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va en ressortir, si on va voir des feedbacks, des retours sur cet événement-là, quel jeu qui va avoir été développé. Et ça va avoir lieu à Société V, qui est un endroit là, pour aller jouer un loft de joueurs, un endroit un peu plus tranquille pour jouer, puis ils ont décidé de faire l'événement à cet endroit-là. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qui va en ressortir. Il y a aussi un tournoi de Twilight Struggle qui a lieu du 4-5 mars. Il y a 64 places disponibles, pardon. Donc, vous pouvez vous inscrire à ça aussi. On va mettre les liens là, de tout ça. Ou vous pouvez aller directement là, sur le site de Montréal Joue et vous allez y retrouver toutes les infos qu'on dit en ce moment. Il y a aussi le dimanche des protos. Donc, ça a lieu à la récréation. Et c'est le 5 mars de midi à 18h. Donc, des gens qui ont des prototypes qui vont les présenter. Vous pouvez aller voir ces prototypes-là qui ont été développés. Tous des jeux québécois. Et finalement, il y a le club de conception TD qui a lieu dans les diverses bibliothèques de Montréal. C'est des ateliers de conception de jeux vidéo, de jeux de société. Donc, plus c'est dans la semaine de relâche, peut-être plus pour les jeunes, je ne sais pas exactement. Il n'y a pas beaucoup de détails. Donc, je vous invite à aller voir ça. C'est dans la semaine du 6 mars. Donc, ça, c'est pas mal les activités qui regroupent dans Montréal Joue. C'est vraiment un gros événement. Je ne sais pas si on va aller faire un tour, je ne sais pas si ça va donner dans notre horaire, mais c'est vraiment un gros événement, là, si vous êtes dans le coin de Montréal, même n'importe où, là, vous pouvez vous déplacer, je pense que ça va valoir vraiment la peine d'aller là.
C'est intéressant qu'il y ait ajouté comme un volet conception,
ouais, ça, c'est...
de pouvoir aller essayer des prototypes puis encourager les initiatives des gens d'ici. Ouais.
C'est vraiment inspiré des 24 heures de conception de jeux vidéo qui se font beaucoup quand même. Okay. Et là, ils ont décidé de l'amener au board game. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner parce que ça prend du playtesting un peu, tout ça. Mm-hmm. Mais quoi que de côté jeux vidéo aussi également, puis ça se fait très bien. Plusieurs personnes vont le faire en 24 heures, puis ça implique du développement aussi graphique et tout ça. Tandis que là, c'est.
Ah, c'est sûr que ça peut pas être un produit fini. Non, là, c'est mais ça. Au moins, ils vont avoir la base, l'univers, puis le design, où est-ce qu'ils s'en vont.
Mm-hmm. Ça doit être vraiment très fun à participer. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va ressortir de ça. Et finalement, lorsqu'on sort Montréal Joue, il y a une expansion pour Splendor qui va sortir. Ben, en fait, ils n'ont pas de date encore de dévoiler. Là, c'est encore en développement. Puis le titre aussi est en développement. Donc, ça s'appelle Cities of Splendor, mais ça va peut-être changer.
Okay.
Il y a une vidéo là, qui a été un peu partagée là, sur Board Game Geek. Qui explique un peu tout ce qu'il va avoir dedans. Là, j'ai ressorti un peu, c'est avec une entrevue avec l'auteur. Il disait ça va être 4 extensions dans la boîte. Fait qu'il y a une extension qui comprend 4 petites extensions. Et ça va ajouter des nouvelles façons de jouer, plus de compétitions, des objectifs. Donc un peu plus de challenge. Il disait ça va être un peu plus... Splendor, c'est assez... va directement au point. Là. J'essaie de traduire straight to the point. Mais c'est vraiment linéaire. Tu vas chercher des cartes.
C'est toujours un peu la même chose de partie en partie. Mm-hmm. C'est le fun qui veulent renouveler ça. Tu es en train de me l'apprendre qu'il y a une extension qui va sortir. Mais c'est sûr que je vais être intéressée. Là. C'est un jeu que j'aimais beaucoup jouer. Mais là, on dirait que c'est comme si j'avais oublié qu'il existait. Ouais. Parce qu'on a fait un peu le tour.
Mm-hmm. Ouais.
Mais
je pense que ça va.
Surveiller ça.
Il y a une extension aussi qui prévoit ajouter des plateaux de joueurs pour avoir des objectifs. En fait, si tu places telle carte de telle couleur sur une case, ça te donne des bonus, des pouvoirs spéciaux. Puis ils veulent aussi ajouter des cartes avec des pouvoirs spéciaux. Ils veulent vraiment juste booster le jeu un peu avec des avantages. Ça, là, c'est assez. Tout le monde a les mêmes. Il n'y a personne qui a de propriété spéciale, hein, de pouvoirs spéciaux. Mais là, ils veulent un peu plus changer ça vers ça. Donc, j'ai hâte de voir ça. C'est en développement. Puis, dans la vidéo, là, je me souviens plus quand elle a été tournée, mais il disait que peut-être qu'il va y avoir des images de tout ça à Cannes. Cannes, c'est la semaine prochaine, Festival international de Cannes que j'ai parlé dans le dernier épisode. Donc, peut-être qu'on va avoir plus de nouvelles pour vous là, par rapport à ça dans les prochains épisodes. Donc, ça fait le tour des nouvelles là, que j'avais.
Ça bouge beaucoup ces temps-ci.
Il y a beaucoup de nouvelles, beaucoup d'activités dans le monde ludique.
On est maintenant rendu à vous parler des jeux de contrôle de territoire. Qu'est-ce que c'est un jeu de contrôle de territoire? Le nom est assez clair. Il faut contrôler des territoires pour pouvoir gagner la partie. On est quand même allé voir sur le site de Board Game Geek c'était quoi la définition. En anglais, ils appellent ça Area Control ou Area Influence. Donc, le but, c'est d'avoir la majorité d'unités ou d'influence pour avoir une récompense. Les récompenses qu'on peut avoir, c'est souvent des points de victoire à la fin de la partie. Ça peut être aussi un accès pour pouvoir produire des ressources ou un revenu que ce territoire-là va nous apporter. Ça peut aussi nous donner un avantage immédiat aussitôt qu'on arrive sur la case, on va recevoir quelque chose en particulier. Il y a des jeux où les territoires, une fois qu'un joueur est allé dessus, il est à lui pour le reste de la partie, il n'y a personne qui peut venir lui enlever. Il y a aussi d'autres jeux où les joueurs, dans le fond, vont essayer de compétitionner pour les territoires. Ils vont essayer de chacun mettre des cubes ou des unités. Puis à la fin de la partie, ben, c'est la majorité qui gagne. Donc le joueur qui a mis la majorité de cubes va avoir le territoire pour lui. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui pourrait par la suite lui enlever, peut-être. Donc il y a des jeux qui sont plus pacifiques. Il y en a qui sont plus de guerre, de combat. Pour des jeux pacifiques, nous, on a pensé plus à Formidable. Formidable, on se promène sur le territoire, puis aussitôt que notre fourmi est passée sur le territoire, on met une phéromone dessus. Ça veut dire que le territoire est à nous, puis il n'y a pas de combat pour les territoires au fil de la partie.
Mais ça donne des points pour le nombre que tu as placé à la fin.
Ouais, c'est ça. Puis, il y a des jeux où les combats sont quand même assez simples. Par exemple, dans Small World, on n'a pas nécessairement besoin de lancer des dés ou de faire quelque chose de particulier pour faire des combats. C'est juste le nombre d'unités qu'on a placées qui va déterminer c'est quel joueur qui gagne le combat. Il y a des jeux qui sont vraiment plus compliqués de guerre, où les combats sont vraiment complexes. Là. Par exemple, Access and Allies, ben, tout dépendant du type d'unité qu'on a mis, il y a des pouvoirs, la manière de faire les combats n'est pas pareille, il faut lancer des dés. Donc, on sait pas trop, on peut pas déterminer à l'avance qui va gagner le combat parce que ça dépend de d'autres éléments puis de la force de nos unités. Puis, il y a aussi des jeux où c'est dans le thème de la guerre, mais on place des influences. Comme par exemple Twilight Struggle, 13 Days et Labyrinthe. Il n'y a pas de combat qui se fait, mais c'est avec le nombre de cubes qui détermine, mais c'est quand même la guerre. Donc, ça fait pas mal le tour de ce qu'on a constaté quand on a regardé dans notre collection puis dans les jeux qu'on avait essayés, ceux qui utilisent cette mécanique-là. Maintenant, Jean-Philippe va vous parler des jeux les plus populaires qui existent avec cette mécanique-là.
Oui, c'est quand on regarde ça qu'on constate qu'on n'a pas nécessairement énormément de jeux de contrôle de territoire dans la collection. C'est pas une mécanique qu'on a beaucoup, mais quand même que moi j'apprécie quand même bien. Puis que pourquoi on a voulu parler de contrôle de territoire, c'est un peu à cause de Side qu'on a eu récemment qui possède cette mécanique-là. Mais là, j'ai fait le tour un peu de forums, de top 10, de plein de monde qui parle de jeux de société et qui, pour les contrôles de territoire, lui qui ressortait le plus, c'est El Grande, qui est un jeu que je connaissais pas du tout, mais qui se retrouve quand même dans le top 100 de Board Game Geek, qui est un jeu à thématique médiévale en Espagne. Donc, ça va l'air très intéressant comme jeu. Je l'ai mis sur ma wishlist. J'ai hâte de voir. Je vais peut-être essayer de le procurer ou de l'essayer un jour. Ça va l'air très intéressant. Il y a aussi Dominant Species, qui est un jeu qu'on a sur notre wishlist depuis un très long moment, je crois. Un jeu de développement d'animaux où on contrôle justement des territoires avec nos espèces. Donc, c'est vraiment un jeu qu'il faut jouer un jour.
Oui,
là,
ça fait longtemps qu'il me tape dans l'œil, celui-là. J'aime beaucoup la thématique.
Ouais, on l'achète juste pas, je sais pas pourquoi. On n'est jamais très décidé à l'acheter, mais je pense que ça va se faire un jour. C'est sûr qu'on va au moins l'essayer. Ensuite, Twilight Struggle, qui est quand même ressorti aussi. Pas très surprenant, mais c'est quand même, il a été longtemps numéro 1 sur le classement Board Game Geek. Là, je crois qu'il est 2e ou 3e, je ne sais plus exactement, je pense qu'il est 3e. Il y a aussi Tikal. Lui, c'est drôle, j'en parlais justement avec un ami l'autre jour, qui a une nouvelle édition qui est sortie récemment, qui a un peu redonné vie au jeu. C'est un jeu qui était plus qui a été développé dans les années fin 90, début 2000, je pense. Puis, qui me disait que c'était très intéressant comme jeu, très le fun. Donc, je pense que je vais essayer de jeter un coup d'œil. Puis, justement, il l'a aussi. Fait que peut-être que je vais l'essayer un jour. Il m'en parlait en bien de ce jeu-là, le Tikal. Un autre jeu qui était dans les tops pour les contrôles de territoire. Il y a aussi Carcassonne, bien évidemment. Et aussi Blood Rage, un jeu qu'on n'a pas essayé non plus, qu'on a entendu beaucoup parler. Là. Il y a eu un hype aussi sur ce jeu-là dans la dernière année, en 2016, à sa sortie. Mais on ne l'a pas essayé non plus, fait qu'on ne peut pas en parler plus que ça. Mais ce sont les jeux là, que j'ai retrouvés le plus, qui se discutaient le plus pour les meilleurs contrôles de territoire.
Ouais, ça donne des idées. Si jamais vous aimez cette mécanique-là, puis vous les avez pas essayé encore, en tout cas, nous autres, ça nous fait des choses à découvrir.
Donc, qu'est-ce qu'on retrouve comme aspect intéressant, ben, selon nous, là, comme aspect intéressant, aspect un peu plus irritant dans ce type de mécanique-là? Moi, je trouve que aspect intéressant, ben, on peut créer des alliances, mais ça peut aussi être un aspect irritant pour certaines personnes, vu que justement, si les alliances sont pas très égales, ça peut créer des conflits. Mais quand même, je trouve que c'est un aspect qu'on retrouve pas dans beaucoup de jeux, là, ce principe d'alliance-là. Un qui me vient en tête, là, qu'on n'a pas encore essayé, mais c'est Game of Thrones, The Board Game, qu'il faut essayer un jour, qu'il y a des amis qui l'ont, mais on ne l'a pas encore joué parce qu'on sait que ça va être long.
Et intense,
effectivement. Mais dans ce jeu-là, on peut créer des alliances, on peut après ça backstabber, comme backstabber nos alliances. Donc, ça a l'air un concept très intéressant. Aussi, on peut avoir des déplacements qui sont tactiques. En fait, vu qu'on contrôle le territoire, on peut décider d'entourer une personne, là, et on la bloque dans son coin. On prend un territoire, puis l'autre a de la misère à passer à cet endroit-là. Et il y a tout cet aspect-là de tactique, c'est pas juste de faire le plus de points, mais on peut aller nuire à l'adversaire pour justement le réduire son nombre de points, réduire son contrôle de territoire. Donc ça, c'est un aspect que je trouve intéressant dans les contrôles de territoire. Et je trouve aussi que la thématique est souvent très présente dans ces jeux-là. On a souvent une thématique qui est très forte lors de contrôle de territoire, vu que justement, ça prend un but derrière tout ça. Pourquoi on veut contrôler ces territoires-là? Ben, je pense que la thématique va de soi dans ce type de jeu-là. Et un autre aspect irritant qui va un peu avec les alliances, là, c'est qu'il peut arriver que plusieurs joueurs s'acharnent sur la même personne. Et là, ça devient un peu plate. Tout le monde se dit, on va bloquer lui, on sait qu'il est plus fort. Et là, ça peut devenir un peu irritant pour certaines personnes de se faire bloquer totalement. Donc, c'est les aspects intéressants et moins intéressants que pour moi, j'avais trouvé.
Moi, je terminerais peut-être en ajoutant comme facteur, pas irritant, mais facteur qui peut bloquer certaines personnes comme nous. Puis je pense que ça explique pourquoi on n'en a pas beaucoup dans notre collection. C'est que ces jeux-là deviennent vraiment intéressants quand on est plus que deux joueurs.
Ouais.
Parce que justement, quand on est deux, ben tout l'aspect faire des alliances avec les autres joueurs, il n'est pas là. Donc, non. C'est vraiment un duel, puis des fois, ça devient un petit peu plate, là, t'sais. C'est comme chacun de son côté, tandis que aussitôt qu'on ajoute un troisième joueur, là, la dynamique change complètement, parce qu'on n'a pas juste un adversaire contre qui s'acharner, comme
ouais,
tu
c'est
disais.
Vrai.
Fait que je pense que c'est peut-être pour ça qu'on n'en a pas beaucoup, parce que quand on a commencé à acheter des jeux, c'est sûr qu'on se concentrait plus sur les jeux qui pouvaient être le fun à deux. Puis dans ces jeux-là, quand tu vas regarder sur le site de Board Game Geek, c'est rare qu'ils disent qu'il est meilleur à deux.
Ouais, c'est vrai.
C'est souvent meilleur à 3, 4, 5 joueurs.
C'est vrai.
Fait que, mais on commence à découvrir plus ça parce que maintenant, avec le podcast, on a connu d'autres personnes qui sont rajoutées avec qui on peut jouer à des jeux plus régulièrement. Puis ça justifie qu'on peut en acheter qui vont. Des fois, ça se joue même pas à deux joueurs.
C'est ça.
Fait qu'on commence à en acheter qui se joue à partir de trois joueurs puis à plus les apprécier.
Ouais, non, c'est vrai, c'est un bon point, j'avais oublié. Comme tu disais, ça arrive souvent que c'est des jeux qui sont même pas jouables à deux joueurs, là. Donc ils sont à partir de trois. Alors, on voulait terminer cette chronique-là avec nos jeux préférés de contrôle de territoire. Moi, de mon côté, mon numéro un, je pense que c'est Runewar. J'aime vraiment ce jeu-là quand tu contrôles un territoire, c'est pas juste le territoire que tu... En fait, il te donne même pas de points à la fin, ce territoire-là. C'est un endroit que tu peux cacher tes runes. Tu peux aussi... Le territoire va te donner des ressources que tu vas pouvoir avoir à chaque tour. C'est très complet au niveau du contrôle des territoires. C'est pas juste d'aller une zone pour une zone puis ça fait un point de plus à la fin. C'est vraiment tactique, cet aspect-là que j'apprécie beaucoup. Tu peux décider d'aller plus dans une zone pour bloquer l'autre. Donc, et c'est un jeu qu'il joue quand même très bien à deux, puis on l'a jamais essayé à trois ou à quatre, puis je pense que ce serait vraiment un jeu qui est meilleur, puis on se le dit à chaque fois, mais c'est un jeu qui est très long, donc c'est probablement une des raisons pourquoi on le sort pas très souvent, mais qui est tellement le fun, ce jeu-là. C'est vraiment quand je pensais à ça, je me dis, ouais, c'est vraiment RuneWar, là, Contrôle des territoires, ça, c'est vraiment mon préféré. En premier lieu, c'est certain. Un autre que j'avais noté, qu'on a parlé récemment, là, Terra Mystica, qui lui, lorsque je regardais, ça disait que c'était pas nécessairement un contrôle de territoire, c'est plus une construction de route, vu que de réseau en fait, vu qu'on faut agencer tous nos bâtiments un à côté de l'autre sur des territoires. Mais on peut quand même, il peut avoir quand même la stratégie de bloquer l'autre qui peut pas aller plus loin avec sa construction, sa route dans le fond. Donc, je considère quand même contrôle de
Ah,
territoire,
c'est un
même.
aspect important.
Ouais, c'est ça. Même si à la fin, ça donne pas un point par territoire que tu contrôles, mais c'est lui qui en contrôle le plus dans la même lignée, là, la suite la plus longue, lui fait plus de points, etc. Donc, c'est un autre type de contrôle de territoire, on pourrait dire, là. Mais si on va sur Board Game Geek et on voit les mécaniques, Area Control et Area Influence ne fait pas partie des mécaniques du jeu, selon les utilisateurs. Ça vient des utilisateurs des jeux, là, toutes les mécaniques qui sont classées.
Ah, pour moi, oui. Là, je trouve que c'est vraiment important de faire attention où tu mets tes bâtiments, dans le fond, parce que si tu veux pouvoir prendre de l'expansion, il faut que les territoires à côté, ça soit plus facile pour toi d'aller les chercher, tout dépendant c'est quoi qui est sur la case, là. Fait qu'il faut vraiment y penser, puis il faut vraiment bien choisir, parce que la première partie qu'on a jouée, c'est justement ça qui m'a nui. J'étais mal placée sur la carte, fait que... Non,
Non, je pense
je...
que oui, je suis d'accord avec toi. Puis c'est pour ça qu'il se retrouvait quand même dans certains tops, là, de monde qui disait mes tops de contrôle de territoire, ben il était dedans. Fait que je pense que c'est juste partagé, là, comme
Mais c'est
opinion.
pas classique là,
Ouais,
comme
c'est ça.
contrôle de
Non, c'est ça.
territoire, parce qu'il n'y a pas d'unité,
Non,
là,
c'est
c'est juste
ça.
la construction.
C'est très pacifique, mais tu peux
Mais
quand même
oui.
bloquer les autres. Et finalement, un troisième, que 13 Days, que je reviens toujours avec ce jeu-là. Lui, c'est plus au niveau de l'influence qu'on contrôle différentes zones, mais ça dépend des cartes agenda, qui sont les points qui vont être carrés en fin de tour. Là, il faut mettre de l'influence sur une certaine ville, et là, on va pouvoir la contrôler, faire des points, etc. C'est tout caché, c'est seulement les cartes agenda qui vont être carré à la fin du tour, à la fin du tour. Donc c'est tout un jeu de gestion d'un peu, pas un mind game, mais un peu de bluff, etc. Donc c'est un autre aspect contrôle de territoire, mais lui plus point de vue influence, point de vue plus politique, on pourrait dire. Donc ça, c'est mes trois jeux préférés.
De mon côté, pour mes préférés, ben ça ressemble pas mal à toi, vu qu'on n'en a pas énormément dans notre collection. Je pense que c'est les trois jeux que tu as mentionnés, ils se démarquent vraiment. Je les aime beaucoup. Je les aime plus que un jeu comme Twilight Struggle, par exemple, parce que ça dure comme 4 heures de temps, puis c'est vraiment juste placer des cubes. Je trouve ça un peu redondant, fait que j'aime mieux 13 Days. Puis je trouve que pour un jeu qui est vraiment long, RuneWars est plus intéressant pour moi, parce qu'il n'y a pas juste du contrôle de territoire à gérer, il y a aussi d'autres choses. Fait que je pense que vous pouvez voir que contrôle de territoire pur, c'est pas ma mécanique de jeu préférée. Par contre, il y en a un qu'on a découvert cet automne. C'est 8 Minutes for an Empire Legends. Donc en français, ils ont appelé ça 18 minutes pour un empire. C'est un petit jeu qui se joue à peu près en une vingtaine de minutes, où on place des cubes sur une carte du monde pour contrôler des territoires. Puis je l'aime beaucoup celui-là parce que c'est vraiment du contrôle de territoire pur, mais il se joue très rapidement. Fait que c'est plus dans mes cordes. Fait que je donnerais ma palme d'or à celui-là.
Ah, d'accord. Moi, je vais en rajouter un là, qui me vient à l'esprit, Sight, bien évidemment, qu'on vient de recevoir, mais vu qu'on n'a pas encore assez joué, j'avais la misère à le placer dans mes préférés. Là. Je pense qu'il faut que je donne un peu le temps de jouer un peu plus, puis de le confirmer parmi mes préférés. Mais sûr que j'ai quand même mis Terra Mystica, en tout cas. Au final, Sight aussi là, est dans les jeux que j'aime bien quand même ces temps-ci aussi, puis surtout pour l'aspect solo, là, que c'est rare des jeux de contrôle de territoire qu'on peut jouer en solo. Ça prend un joueur artificiel, en fait une intelligence artificielle contre qui on va jouer, là, parce que sinon ça ferait aucun sens de jouer en contrôle des territoires en solo seulement. Là. Donc ça fait le tour aussi de ça pour moi, là, le jeu que je voulais racheter, Sight. Et ça fait le tour aussi de notre petite chronique sur les contrôles de territoire.
Donc, pour faire suite à la petite chronique qu'on vient de faire, on vous pose la question, quels sont vos jeux de contrôle de territoire préférés? Est-ce que vous avez des suggestions pour nous de jeux qu'on doit essayer absolument? Ou des questions, des commentaires, quoi que ce soit? On va vous expliquer comment nous rejoindre. Donc, notre site web, c'est le www.boardgamequebec.com. Il y a une section « Contactez-nous » pour nous envoyer un message. On a aussi une page Facebook « Board Game Québec ». On a aussi un compte Instagram, BoardGameQC, et si vous abonnez à notre compte, vous allez voir passer des photos des parties qu'on joue presque en temps réel. Là. Jean-Philippe se fait un devoir de mettre des photos à chaque fois qu'on joue à un jeu, donc si vous voulez suivre ça, allez sur Instagram.
Oui. Et il y a aussi plusieurs façons de nous écouter, soit sur iTunes, Google Play Music, Stitchers, PodQuébec, Balado Québec, RZO, donc une multitude de façons de nous écouter, plus sur notre site web aussi également.
Vous avez donc, l'embarras du choix, vous pouvez en parler à vos amis s'ils veulent nous écouter.
Oui, effectivement. Puis si vous utilisez une autre plateforme de podcast puis on n'est pas dessus, ben indiquez-nous là puis on va rajouter à ça. C'est souvent très simple à faire.
On va maintenant vous présenter nos derniers achats de jeux. On s'est procuré deux nouveaux jeux, puis on a reçu un jeu qu'on avait backé sur Kickstarter. Donc, Jean-Philippe va vous parler de ça.
Oui, effectivement. Premier jeu qu'on a acheté, un peu en raison de moi, c'est le jeu 1812, L'invasion du Canada, qui est un jeu un peu plus de, encore là, de combat. Ce qui est du contrôle des territoires, je ne pourrais pas le confirmer dans ce jeu-là, mais c'est un peu plus historique où on revit l'invasion des Américains sur le Canada qui déclarait la guerre à la Grande-Bretagne qui occupait le Canada à l'époque en 1812. Donc c'est un peu ça, un peu plus historique comme jeu. Et un autre jeu, Rivet Wars, Front de l'Est, qui est un jeu là, de guerre un peu en face-à-face, en duel, en fait. C'est un jeu qui se joue seulement à deux. Et on va tenter de battre l'adversaire là, sous différentes configurations de territoire. Il y a différents scénarios. C'est un jeu de Cool Mini or Not où on revoit un peu, là, comme dans Zombicide, des plateaux modulables avec des scénarios. Donc, c'est un peu le même principe.
Puis il y a beaucoup de miniatures. Il y a beaucoup de miniatures.
Ben, à peu près une trentaine, mais sont très belles, sont très grosses. C'est vraiment très, très le fun comme miniature. Là, si ça vous intéresse, là, j'ai fait des déballages. Je ne les ai pas encore mis en ligne, donc ça va se faire éventuellement. Donc, je vous invite à suivre la page YouTube pour voir le déballage de ces deux jeux-là. Et aussi, le jeu qu'on a reçu, c'est Mintwork. Je pense que je l'ai publié sur Instagram, Facebook et tout ça dans toute la semaine, plus le déballage aussi que j'ai sorti, vu que c'était un Kickstarter. J'aime ça les sortir rapidement, vu que souvent c'est un peu plus exclusif. Là, on reçoit puis on veut le mettre tout de suite, on veut le présenter à tout le monde. Donc, des fois, il y a un peu plus d'engouement. Et Mintwork, c'est un petit jeu de placement de travailleurs là, qu'on va parler tantôt dans les expériences de jeu. On est rendu à parler des expériences de jeu qu'on a vécues dans les dernières semaines. On a trois jeux à parler, dont Québec, Marco Polo, les voyages de Marco Polo et Mintworks. Donc le premier, c'est Québec, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs, qui est sorti en 2011, un jeu de Pierre Poisson-Marquis et Philippe Beaudoin, et édité par Le Scorpion Masqué et Hystérie Games. C'est une durée de 75 minutes environ. Peut-être un peu plus, là, je trouve l'estimation un peu basse. c'est un jeu qui a gagné, comme on disait en début d'épisode, le Plateau d'Or en 2007. Donc le fonctionnement du jeu, c'est assez simple, ça se déroule sur 4 siècles, 4 ères de Québec. Donc les années 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 à peu près, là, début 2000. Donc il y a 4 siècles où on va construire des bâtiments. Et les autres joueurs vont nous aider à construire ces bâtiments-là et ça va leur donner des bonus. Et on doit aussi s'assurer d'être influent là, dans les quatre sphères du pouvoir, dont la religion, la politique, le culturel et le commerce. Donc il y a quatre sphères à gérer et c'est vraiment là que ça joue dans le jeu. C'est là qu'on va faire beaucoup de points et aussi en construisant des bâtiments qui vont nous donner aussi également des points. Donc le déroulement d'un tour de jeu, chaque joueur va jouer une action à tour de rôle. Et on démarre, en fait, les quatre actions possibles, c'est démarrer la construction d'un nouveau bâtiment. Ça veut dire, dans le jeu, on va avoir un architecte qui va entamer la construction de bâtiment et les autres joueurs vont pouvoir venir y contribuer. Et lorsqu'on démarre une nouvelle construction, ça veut dire qu'on termine la construction d'un autre bâtiment qui lui va nous donner des points dépendant s'il y a une, deux ou trois contributions, un, deux ou trois étoiles. C'est aussi simple que ça. Donc, plus il y a de monde qui a contribué, plus ça va nous donner des points en fin de partie. Autre option, c'est contribuer à la construction de bâtiments, effectivement. Si on contribue à notre propre construction, ça ne nous donne pas de pouvoirs spéciaux, tandis que si on contribue aux autres, ça nous donne des pouvoirs spéciaux qui vont parfois nous permettre de mettre de l'influence un peu partout et de faire plus de points en fin de ce tour-ci. Donc, il y a vraiment un aspect stratégique de choisir les bons bâtiments à construire pour que les autres viennent nous aider à les construire. La troisième option qu'on peut faire dans un tour, c'est envoyer un travailleur dans une des zones d'influence. C'est pas une option qu'on utilise très souvent puisque c'est pas très efficace comme option. Ça m'amène à vous expliquer un peu il y a un concept dans le jeu de travailleur actif et passif. Il y a des options comme démarrer la construction d'un nouveau bâtiment et certains pouvoirs qui vont nous permettre de passer un travailleur de passif à actif. Et c'est les travailleurs actifs qu'on va pouvoir utiliser pour contribuer au bâtiment et placer dans une zone d'influence. Donc, c'est pas la meilleure option, mais ça reste. Des fois, ça peut juste jouer sur le contrôle que je vais expliquer tantôt des différentes zones où il faut être le plus en plus grand nombre pour faire basculer les travailleurs. Là, je vais l'expliquer un peu plus tantôt. Et finalement, la quatrième option qu'on peut faire, c'est de prendre un leader. Il y a cinq leaders qui sont optionnels. Dans le jeu, on n'est pas obligé de jouer avec les leaders. On peut les mettre ou on peut ne pas les mettre. Et eux ont des pouvoirs spéciaux, là, par exemple, faire des points si on construit tel bâtiment, selon le nombre d'étoiles. Pouvoir, si on contribue à un de nos bâtiments, eh bien, on peut avoir le pouvoir aussi. Il y a d'autres pouvoirs comme ça. Il y a un deuxième architecte, on peut avoir deux architectes en même temps. Et là, on peut construire plus de bâtiments. Donc, il y a différents pouvoirs pour les leaders. Donc, c'est comme ça que se joue un tour de jeu. À la fin d'un siècle, donc à la fin à chacun des siècles, il y a une phase de pointage. Et la fin d'un siècle, en fait, se termine lorsque un joueur veut construire un nouveau bâtiment et il n'y en a plus dans ce siècle-là. Donc, ça déclenche automatiquement la fin de ce siècle-là. Et là, on fait une phase de points. Ça veut dire un travailleur vaut un point dans une zone d'influence. Mais je dirais, l'aspect intéressant dans le jeu, c'est que si on est plus de travailleurs dans une des zones, ce joueur-là va basculer la moitié de ses influences vers l'autre zone suivante qu'on va calculer les points. Donc ça joue dans un sens horaire de zones d'influence, des cinq zones d'influence. En fait, les quatre zones d'influence et la citadelle. On démarre toujours la partie à la citadelle et ensuite on se dirige vers une des zones d'influence dépendant du siècle où on est rendu. Donc il y a vraiment un aspect intéressant de se créer des majorités. On peut aussi aller créer des majorités un peu plus loin dans l'ordre des influences qui vont être comptabilisées pour bloquer la progression des autres joueurs avec les basculements. Donc c'est un concept très intéressant. Ensuite, à la fin de la partie, il y a des points pour les événements. Ça, c'est un aspect aussi qu'on peut rajouter dans le jeu qui est facultatif, qui permet des fois de un peu aligner les gens vers un objectif, par exemple, d'avoir le plus de bâtiments collés ensemble, etc. Là. Ensuite, il y a des points pour les bâtiments qu'on a construits. Donc, si une étoile, c'est un point, deux étoiles, trois points, trois étoiles, six points. Donc, c'est plus payant de faire des bâtiments à trois étoiles. Il y a aussi deux façons et deux variantes dans le jeu, en fait familial ou expert. Et dans la variante expert, il faut définir un quartier, c'est-à-dire tous des bâtiments qui sont collés ensemble, qui nous appartiennent, eux vont faire des points, les autres ne feront pas de points. Tandis que dans la version familiale, ce sont tous les bâtiments qu'on a construits qui font des points et ça fait une très grande différence dans le jeu. On s'en est rendu compte lors de la dernière partie. Et finalement, il y a des points pour les contributions restantes, des petits points si on a contribué à certains bâtiments et que la partie est terminée, et des points pour les travailleurs actifs qui restaient en notre possession. Et le joueur avec le plus de points, au final, gagne la partie. Donc, c'est aussi simple que ça, ce jeu-là, mais il y a beaucoup de stratégies quand même à penser et à faire. Donc, pour mon appréciation du jeu. Au niveau des composantes, là, ça va être assez bref. C'est de très bonne qualité en général. Graphisme, très bien aussi. Rien à tout casser non plus. Mais ça fait très bien le travail. Moi, j'apprécie bien tout ce qu'on retrouve dans la boîte. Les règlements aussi, différents niveaux de règles, comme j'ai dit, expert et familial. Donc ça, c'est très bien aussi. Puis, on n'a pas de difficulté à se retrouver là, dans les règles. Donc, ils sont très bien organisés aussi. Au niveau plus là, de la jouabilité, du gameplay, comme je disais, les phases de pointage, des zones d'influence, c'est vraiment le point fort du jeu, de vraiment se concentrer sur est-ce que je dois aller plus dans cette zone-là pour influencer ou je suis déjà trop en retard que je suis mieux d'aller dans la zone d'après et bloquer la progression d'un autre joueur. Ça, je trouve vraiment c'est très tactique. Et la façon aussi que ça va marcher, c'est que si on contribue à un bâtiment d'une couleur jaune, par exemple, ça est lié au commerce. Si le joueur le construit, donc il se déplace en architecte, nos jetons en fait vont aller dans la zone jaune. Donc ça se peut qu'à la fin d'un tour, si le joueur n'a pas construit le bâtiment qu'on pensait, qu'on n'a pas toute l'influence qu'on voulait dans la zone. Donc ça, c'est un aspect très intéressant. On aide en fait les joueurs. Faut penser avant de se déplacer. Est-ce que ça va nous nuire? On est-tu mieux de les garder pour l'âge suivant? Donc ça, c'est vraiment des très beaux points dans ce jeu-là. Il y a aussi le choix des bâtiments, là, c'est vraiment important, comme je disais tout à l'heure, de lequel qu'on va choisir à aller construire. Parce que s'il y a un pouvoir qui est vraiment intéressant pour les autres, il y a beaucoup de monde qui vont venir contribuer. Donc, lorsqu'on va le construire, en fait, on n'aura pas à attendre longtemps avant qu'il soit à 3 contributions. Et là, il va être un bâtiment à 3 étoiles, donc 6 points à la fin de la partie. Tandis que si on choisit un mauvais bâtiment, qu'il n'y a personne qui vient contribuer, une personne, puis là, on décide, bon, on n'a pas le choix de se déplacer ailleurs parce que là, on n'a plus de travailleurs actifs. Donc, et là, on va juste avoir un bâtiment à une étoile qui vaut un point. Ça a vraiment un grand enjeu dans la partie.
Je suis vraiment d'accord avec toi sur ce point-là. Dans la partie, ça allait quand même bien mes affaires, mais on dirait qu'à chaque fois que je choisissais un bâtiment, il n'y avait personne qui venait. Ça m'a vraiment ennuyé. Je pense que si j'avais mieux choisi mes bâtiments, j'aurais peut-être pu gagner. Mais je trouve qu'il y a vraiment une belle complexité à ce niveau-là. Tu sais, il faut prendre notre décision pour le bâtiment en se disant, bon, faut que j'essaye d'attirer les autres joueurs, mais faut pas non plus que je me bloque. Parce que quand on choisit un bâtiment, si on contribue à notre propre bâtiment, à moins d'avoir un pouvoir spécial, on n'a pas le bonus qui va avec ce bâtiment-là. C'est juste les autres joueurs, quand ils viennent, qui vont l'avoir. Fait que là, moi, j'essayais de choisir en me disant, ben si je prends ce bâtiment-là, je pourrais pas utiliser le pouvoir. Fait que je vais en prendre un autre qui est un peu moins intéressant en pensant que les autres joueurs vont venir, mais tout le monde veut avoir les bâtiments intéressants aussi pour pouvoir faire des points à la fin. Fait que c'est là que c'est dur à choisir des fois. Là.
Je pense que j'avais un peu la même réflexion que toi. Puis je pense que j'ai eu quand même assez de contributions, un peu plus que toi à ce niveau-là. Mais des fois, c'était plus long avant d'avoir la contribution totale. Tandis que ma mère, je pense qu'on a contribué à tous ces bâtiments très rapidement. Puis on s'est rendu compte à la fin qu'elle en avait beaucoup de bâtiments. Je pense qu'elle avait pour facilement plus que 60. Je pense qu'elle avait 60 points en bâtiment à la fin. 10 bâtiments. Si vous avez déjà joué le 10 bâtiments à 3 étoiles, je pense que c'est beaucoup trop.
Oui, on n'a pas fait attention quand on a contribué à ses affaires aussi.
C'est aussi, je pense, vu que c'était la première fois qu'on jouait avec la version familiale, ça veut dire que tous tes bâtiments comptent. C'est différent comme placement parce que si dans l'autre version, il faut que tu connectes ensemble tes bâtiments. Donc là, tu choisis d'une autre façon. Là, c'était vraiment purement est-ce que je vais avoir assez de monde qui va venir m'aider à construire ce bâtiment.
En tout cas, moi, j'ai constaté que j'étais pas très bonne pour choisir.
Mais je trouve ça. Tu sais, ils appellent ça familial, mais je pense que c'est juste deux tactiques complètement différentes. Je pense pas que la catégorie expert est vraiment plus compliquée.
C'est pas plus dur.
C'est pas compliqué de se dire je vais aller à côté de mon autre bâtiment. Fait que ça, c'est vraiment. C'est sûr que pour le pointage, ça change un peu vu qu'il faut se rappeler que c'est juste notre plus grosse zone qui va faire des points. Ça peut être un oubli en première partie, là, tandis que là, tu sais que tous tes bâtiments font des points. Donc, c'est facile à se rappeler à combien on est rendu.
C'est moins de choses à gérer et à essayer de comprendre.
Puis pour cette partie-là, en même temps, on n'avait pas mis les cartes événements qui rajoutent un peu plus en fait, ils rajoutent des fois tout le monde gagne un travailleur, je pense, pour ce tour-ci. Ou la première objectif, c'est des objectifs de points. En fait, qui, par exemple, si t'as la plus grosse zone adjacente, ben là, ça te donne tant de points, etc. Mais je pense qu'elle fonctionne mieux avec la variante expert que la variante familiale,
OK.
où on ne doit pas les inclure. Donc, je pense que j'ai bien fait. Je pense que les leaders en familial ne sont pas inclus, mais moi, j'ai décidé de les inclure. Je
Ah,
trouvais
OK.
qu'ils ajoutaient. C'est pas très compliqué à comprendre, puis je trouve que ça ajoute un petit aspect intéressant là,
Ouais.
de stratégie. Quoique ma mère étudiait beaucoup l'architecte et je crois que c'est ce qui lui a permis de faire beaucoup de bâtiments. Côté compréhension, je pense que le jeu se comprend quand même bien en jouant quelques tours. On comprend bien la première zone, la première phase de scoring qu'on pourrait appeler de pointage où on bascule les unités. Là, je pense que c'est là qu'on comprend vraiment où il faut se placer. Là,
Ouais.
je pense que c'est là que mon père a compris la première phase
Ouais.
où il devait se placer. Mais grosso modo, ça s'apprend quand même rapidement là aussi. Là, c'est pas très compliqué là, comme
Non.
jeu. Là, t'as pas beaucoup d'options. Là, je l'ai expliqué. T'as quatre options à ton tour, dont deux qui sont très très simples, puis les deux autres un petit peu plus. Faut que tu regardes les pouvoirs spéciaux, mais ça finit là. Je trouvais aussi les parties sont assez serrées. Là. Ça finit par 5 points d'écart, je pense, les trois premiers. 5 points, 5 points, 5 points. Mon père est un petit peu plus en arrière, mais je pense. C'est juste qu'il avait moins saisi au début où ce qu'il devait aller pour les influences, mais après ça, il s'est repris, puis ça a quand même. Il n'a pas été si loin que ça en arrière non plus. Je trouve aussi. Ce qui m'a marqué, c'est que. Fin de la partie, ben, c'était quand même serré, mais Marlowe avait un peu d'avance au début du dernier âge. Puis c'était vraiment difficile de dire qui allait gagner. Je pense que tout
Ouais.
le monde était encore dans la course, puis on l'a vu que ma mère est revenue de l'arrière. On n'a pas calculé les
Ah
points
oui, on
que.
se méfiait pas
Non,
d'elle
non, non.
pendant tout, on allait sur ses
Ouais.
bâtiments en se disant ah, elle gagnera pas, mais
Ouais,
finalement.
on n'a pas, j'ai aucunement réfléchi à ça, puis à la fin, moi j'étais là, ah, je suis loin, j'ai des points en masse, puis elle fait 60 points, elle était à 100, ah, 160, j'étais à 155, ah bon, j'ai perdu, ça a l'air. Donc ça, c'est très bon comme, c'est le fun quand un jeu est comme ça, que tout le monde peut gagner au dernier tour, puis faut se méfier de tout, là. Je pense que la prochaine fois, je vais faire plus attention. aussi, chose. Ben, c'est pas négatif, mais en fait, il est pas recommandé à deux joueurs, mais on l'a jamais essayé encore.
Ouais, c'est
Fait
vrai.
que je sais pas qu'est-ce que ça donne, vu que. Je sais pas si c'est un peu du contrôle de territoire, oui et non. D'une certaine façon, oui. Si on joue à expert, il faut réseauter un peu notre affaire, un peu comme Terra Mystica. Donc, il y a un peu cet aspect-là aussi, pour aller avec la thématique de l'épisode. Mais on l'a pas encore essayé. Je sais qu'il y a des petites particularités qu'il faut faire à deux joueurs. Donc peut-être qu'ils rendent le jeu moins intéressant. Donc un jour on va probablement l'essayer. Mais c'est rare qu'un jeu qui joue à deux, mais qu'on a juste joué à plus que deux. Habituellement, c'est le contraire.
Ouais.
On les joue tout le temps à deux. Puis donc
Ouais, c'est vrai,
c'est.
celui-là,
Ouais.
on l'a juste joué à 4, je
Ouais.
pense.
Non, à trois une fois avec,
OK.
avec David, professeur Board Game,
Ah oui, c'est vrai.
pour ne pas le nommer. Et donc ça fait pas mal le tour de l'appréciation générale. Puis sérieusement, c'est très bon ra rapport qualité-prix, là. C'est un jeu qui se vend 25$. Aujourd'hui, je me sens dans les board games, 25$, t'as rien, là. T'as un paquet de cartes, là, me semble. Puis lui, t'as un jeu complet, t'as tout l'aspect stratégique. T'as un jeu vraiment très stratégique pour
Ouais.
25$, là, c'est très rare, là, je trouve. Moi, j'ai noté ici ces données. Je trouve on dirait qu'ils donnent le jeu, ils veulent que tu le joues, ben c'est bien. Puis, niveau note, moi j'ai donné un 8 sur 10. Là. Probablement que ça va peut-être monter dans le futur aussi. Je trouve à chaque fois que je joue, j'aime vraiment ce jeu-là. Il monte dans mes coups de cœur. Je sais pas pourquoi, mais je l'aime bien. C'est juste comme ça.
En tout cas, je l'ai vraiment plus apprécié que les dernières fois qu'on avait joué. Là, on dirait que, je sais pas, les premières parties qu'on avait faites, il y avait quelque chose que je comprenais pas, là. Pourtant, c'est simple, là,
Ouais.
mais les influences qui se
Ouais.
basculent, puis tout ça, on dirait que
Tu
je savais pas
étais tout
trop
perdu.
qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Mais là, après, ça faisait quand même un petit bout de temps qu'on l'avait sorti, là. On dirait que ça
Ça a
avait eu le temps de
décanté.
cogiter, là, ou je sais pas, mais non, j'ai vraiment aimé la partie qu'on a jouée. Ça va me donner le goût de plus y jouer, là, dans le futur. C'était vraiment le fun. Puis même si c'était des nouveaux joueurs, comme tu dis, ça a fini vraiment serré. Fait que je pense qu'on peut jouer avec n'importe qui. Puis c'est quand même facile à expliquer. Après 2, 3 tours, ils comprennent qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent. Puis ils sont pas comme. C'est pas certains qui vont perdre vu que c'est leur première
Non, c'est
partie,
ça.
t'sais. Non, ils vont pouvoir se débrouiller quand même. Fait que ça, c'est le fun là, de pouvoir jouer avec différents niveaux de joueurs en même temps, puis qu'on sait pas à l'avance c'est qui va gagner.
Ouais. Non, c'est vraiment très bien. Donc, c'est ce qui fait le tour du jeu Québec, si ça vous intéresse, là, allez voir ça. Très bon jeu, très bon rapport qualité-prix.
Ouais. Donc, je vais y aller maintenant avec les voyages de Marco Polo, qui est un jeu de placement de dés. Quelle surprise! Un autre jeu de placement de dés! C'est pour 2 à 4 joueurs, sorti en 2015. Sur la boîte, la durée qui est inscrite, c'est environ 20 à 25 minutes par joueur. Je pense que c'est assez représentatif. On a joué une partie à deux joueurs. Ça a pris à peu près 1 heure, mais on a vraiment pris du temps pour réfléchir. Puis on avait déjà joué dans le passé, mais ça faisait vraiment longtemps, fait qu'il a fallu se remettre dedans, là. Je pense qu'une fois que t'as joué puis que tu t'en souviens un peu,
Ouais,
c'est
ça
à peu
peut.
près ça, 20-25 minutes par joueur. Puis c'est un jeu qui est très bien coté sur Board Game Geek, qui est classé 34e, toutes catégories confondues, puis 27e dans les jeux de stratégie.
Ouais, c'est bon.
Le but, c'est de faire le plus de points possible en parcourant le monde et en faisant des contrats, comme Marco Polo, qu'on connaît bien. Donc, remplir un contrat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'échanger un nombre de marchandises contre une récompense. Les marchandises qu'il y a dans le jeu, il y a de l'or, de la soie, du poivre et des chameaux. Puis les chameaux servent aussi à se déplacer sur la carte du monde, là, quand on voyage. Dans le fond, il y a différentes destinations où on peut construire des comptoirs. Puis quand on construit des comptoirs, ben ça nous donne accès à des choses là qui sont particulières à cet endroit-là. J'en parlerai un petit peu plus loin. Au début de la partie, on pige des cartes objectifs et on choisit aussi un personnage qui va nous enligner un peu dans notre stratégie pour le reste de la partie. La partie se joue en 5 manches. Au début de chaque manche, on lance les dés. Et par la suite, ben, chaque joueur peut placer à tour de rôle des dés sur le jeu à des endroits qui vont donner des ressources, de l'argent, des contrats ou qui vont nous permettre de se déplacer sur la carte du monde. Puis comme je disais tantôt, ben, une fois qu'on a placé des comptoirs sur la carte du monde, ça nous donne des fois accès à des endroits supplémentaires où on peut placer nos dés. Puis c'est juste les joueurs qui ont mis des comptoirs à cet endroit-là qui vont pouvoir placer des dés sur cette case-là. Donc, ça nous donne comme des actions de plus qu'on peut faire qui peuvent être plus intéressantes que qu'est-ce qui est à la base disponible dans le jeu. Une chose qui est importante à savoir dans ce jeu-là, c'est que quand on met des dés sur un endroit, ça n'empêche pas nécessairement les autres joueurs de venir placer des dés aussi. Ils peuvent quand même placer leurs dés, c'est juste qu'ils doivent payer des pièces d'or, tout dépendant des chiffres qui sont sur les dés qu'ils ont placés. Ça peut être plus ou moins d'or, là. On prend toujours la valeur du plus petit dé. Puis la valeur du plus petit dé aussi, c'est important. Quand on met des dés sur un endroit, c'est toujours ça qui va déterminer c'est quoi la récompense, le bonus qu'on va avoir. Par exemple, il y a des endroits où on obtient des ressources. Puis si on met un dé, si le plus petit dé qu'on a mis c'est un 6, ben on va avoir comme le maximum de ressources. Si c'est un 1, on va avoir le minimum. Fait que ça dépend qu'est-ce qu'on veut. Faut placer nos dés en conséquence. Il y a aussi des façons de modifier les dés en payant des chameaux. Ça nous permet de soit relancer un dé, faire un plus un moins un sur un des dés qu'on a en notre possession. Et ça peut aussi nous permettre d'aller chercher un dé noir qu'on lance et qui va s'ajouter là, au dé qu'on peut placer durant la manche. Puis pour terminer, là, les grands principes du jeu, ben, pour les contrats, c'est important de savoir que on n'a pas besoin d'utiliser nos dés pour les compléter. Il faut utiliser nos dés pour aller les chercher. On les met devant nous, c'est les contrats qu'on peut faire. Puis quand on veut les compléter, c'est une action complémentaire qui appelle dans le jeu. Ça veut dire qu'on peut le faire n'importe quand, à notre tour. On n'a pas besoin d'utiliser nos dés, ça compte pas comme une action. Donc, j'ai constaté durant la partie que des contrats, on peut en faire vraiment beaucoup, vu que justement, ça n'utilise pas d'action. Donc, je vais passer maintenant à mon appréciation. C'est un très beau jeu avec des vraiment belles composantes. J'aime bien le thème et le design. Moi, je trouve ça très beau puis très attirant. Puis la manière qu'on place les dés sur le jeu puis que les autres joueurs peuvent quand même venir en payant de l'argent, ça sort de l'ordinaire là pour les jeux de placement de dés ou placement d'ouvriers. T'sais, on est habitué à ce que ça soit bloqué aussitôt qu'il y a quelqu'un qui est allé. Puis, je trouve ça le fun que ça ait une durée là, de si on joue à deux joueurs, moins d'une heure. Fait que c'est toujours le fun. Puis c'est pas compliqué à expliquer. Par contre, je suis assez d'accord avec des commentaires qu'on a eus de personnes qui suivent notre page Facebook. Jean-Philippe a mis une photo du jeu là, après qu'on ait joué. Puis les premiers commentaires qu'on a eus, ils étaient pas très élogieux par rapport au jeu. Il y en avait qui disaient que c'était froid, qui ont pas aimé ça du tout. Mais moi, en tout cas, c'est pas que j'aime pas le jeu, mais je suis d'accord avec la personne qui a dit qu'on n'a pas le temps de faire grand-chose dans le jeu. Ça va vraiment vite. On dirait que c'est toujours ardu. Ça coûte toujours super cher, soit en argent, soit en ressources, faire de quoi. Fait que je trouve qu'on n'a pas le sentiment d'être Marco Polo puis de faire un empire commercial. On dirait que c'est tout le temps dur. Mais en même temps, ça devait être dur, là, dans ce temps-là, aller explorer la Chine puis tout ça, mais... Je sais pas, on dirait que on a l'impression d'être un marchand no-name. On n'a pas l'impression d'être Marco Polo.
Moi, contrairement à toi, je l'ai mis dans mes points positifs, là. Pas beaucoup de tours dans une partie, donc optimisation des actions. Ouais. Faut t'optimiser les affaires. Si tu fais une mauvaise action, t'es dans le trouble.
Mais en tout cas, moi, on dirait que j'ai trouvé ça tout le temps difficile. J'avais comme pas de plaisir. Là, tout le temps.
C'est pas bon, ça.
Mais c'est pas que c'était... En tout cas, c'est juste que...
Ouais, je comprends.
Il y a pas un moment dans la partie que je me suis dit « Ah, oh, ça va bien mes affaires.
» En plus, c'était le contraire.
Je pense que ça, c'était dû au fait que j'ai axé ma stratégie beaucoup sur voyager sur la carte du monde. Puis ça, c'est un autre commentaire qui nous a été apporté là, par des auditeurs que ça vaut absolument pas la peine d'aller là. Puis je suis totalement d'accord. Au début de la partie, on pige des cartes objectifs qui nous disent les villes qu'il faut aller pour pouvoir faire des points à la fin. Puis moi, les villes que j'avais, elles étaient vraiment éloignées l'une de l'autre. Puis même si on pige 4 cartes puis on en garde 2, je pouvais pas faire une combinaison que ça allait être facile.
Okay.
C'était tout le temps vraiment difficile comparativement à toi quand j'ai vu à la fin les objectifs
ça allait bien.
que t'as fait. Les villes étaient assez rapprochées, t'as réussi à faire... C'est tout ce qu'il fallait que tu fasses, là, le maximum. Parce qu'on peut aussi décider d'en faire moins, faire moins de points. Mais toi, t'as fait tout le maximum, ça a été super facile. Moi, toute la game, tout ce que j'ai essayé de faire, c'est faire ces objectifs-là, puis ça a toujours été difficile.
Ça, moi, j'ai réussi.
Et ça dépendait vraiment de la chance.
Ouais, c'est vrai, parce que moi, j'ai réussi à faire tous mes objectifs de voyage, plus 5-6 contrats.
Ouais, moi, j'ai fait juste 2
contrats.
Fait que ça, j'ai trouvé ça un peu plate, puis j'ai trouvé ça bizarre parce qu'on est habitué, me semble, dans les jeux que peu importe la stratégie qu'on prend, si on décide d'axer sur une chose ou l'autre, il y a des choses que oui, sont plus payantes que d'autres, mais c'est rare que c'est aussi déséquilibré.
Ouais,
là,
c'est
on peut même pas décider d'axer notre stratégie sur la carte du monde, ça vaut juste pas la peine. C'est impossible, je pense, de faire beaucoup de points, là.
Ouais, je sais vrai, peut-être, parce que Faut aussi savoir que quand on place des comptoirs, comme Marie-Lou disait, ça donne une carte où on peut aller placer un dé. Et souvent, c'est des endroits où on peut transformer, par exemple, un chameau plus un or en 4 points. Donc, si tu vas avec un dé 6, c'est le nombre de fois que tu peux le faire. Donc, avec une valeur de 6, tu pourrais transformer 6 chameaux puis 6 or en 6 fois 4, 24 points. Donc, d'un seul coup. Mais c'est sûr que ça nécessite pas d'explorer toute la map. Là. Ça nécessite d'aller aux endroits
stratégiques.
Au départ, je
pense qu'il faut spotter c'est quoi les places intéressantes.
Ouais,
mais moi,
ça.
Cette place-là, ça me donnait rien d'y aller parce que ça fitait pas avec mes objectifs.
Ouais, non, c'est sûr.
C'est vrai que ça c'était vraiment ça changeait vraiment la partie aller à cette place-là.
Ouais. Puis j'ai noté aussi, là, juste comme ça, tu disais, ça semblait très déséquilibré là, c'est ce que j'ai noté aussi, là. On a quand même fini avec 30 points d'écart sur un jeu qu'on a fini à moins de 100 points chaque, là. Donc c'est quand même beaucoup, là.
Ben moi, j'ai quasiment pas fait de points durant la partie.
Non, c'est ça.
Toi, t'en as fait, t'avais quasiment fait le tour du...
Ouais, c'est ça, j'avais quasiment 50 points d'avance sur toi avant de finir la partie.
Alors, c'était décourageant, là, c'est pour ça que je dis que pour moi, c'était comme, mon Dieu, ça... Tu sais que quand t'es dans un trou noir, là, tu penses pas que tu vas t'en sortir, là, c'était un peu ça. Là, je me suis accrochée en me disant « Ah, peut-être qu'à la fin, il aura pas fait tous ses objectifs de ville, puis je vais être correct », mais finalement, il avait fait ça, aucun problème.
J'avoue que ça a très bien été. Je sais pas si c'était dans les high scores qu'on peut faire, j'en ai aucune idée. Probablement parce que tout a bien été de mon côté.
En tout cas, après cette partie-là, je peux dire que... faut vraiment pas négliger les contrats.
Ouais,
parce
non.
que les contrats, ça donne pas juste des points, ça donne aussi des dés noirs, des marchandises,
des
de l'or.
Ressources, ouais, c'est ça.
Ça permet de déplacer le pion sur la carte du monde, ce qui est très très difficile dans le jeu, d'essayer de déplacer le pion sur la carte du monde. Fait que je pense qu'aussitôt qu'on a l'occasion de le faire, faut le faire. Mais peut-être pas juste penser à cet aspect-là.
Ah
donc
non,
c'est ça que j'ai appris, mais je dis pas que j'ai pas aimé le jeu. J'aime quand même le jeu. C'est juste que faut savoir comment y aller, tu sais. On dirait qu'il y a juste... j'ai l'impression qu'on n'a pas la liberté de notre stratégie, tu sais.
Édicté par ton personnage, par tes objectifs, mais faut pas... Je pense qu'il faut pas que tu te fies trop à tes objectifs de carte, finalement. Au final, tu peux te dire, ah, ça va être vraiment trop impossible, je suis mieux de pas trop aller vers ça. Mais j'avoue, peut-être que c'est un aspect déséquilibrant du jeu, déséquilibré, qui fait que souvent, quand t'as des cartes d'objectifs dans un jeu, tu vas te dire, ah, ça, faut que je fasse ça va me faire des points, puis je vais faire d'autres choses à côté, mais peut-être pas ce jeu-là.
Ça fait pas mal le tour de mon appréciation pour les voyages de Marco Polo. Je comprends les commentaires que les gens nous ont faits.
Juste pour conclure par rapport à ça, justement, les commentaires, c'était vraiment soit le monde déteste, soit le monde aime vraiment, c'est dans leur top 10. Il y en a un qui m'écrit sur Instagram et dit c'est mon jeu préféré de 2015, il est encore dans mon top 10. T'sais. Puis il y en a d'autres qui jaillissent ça pour mourir.
T'sais. On aime ou on n'aime pas.
Ouais,
on vous invite quand même à l'essayer pour voir c'est quoi votre opinion.
Et si vous aimez les placements de dés, c'est une petite variante différente avec on peut aller aux mêmes endroits puis payer plus cher. En tout cas, ça ajoute. C'est un peu différent de d'autres placements de dés. Donc ça conclut pas mal Marco Polo, je pense que ça fait le tour. Et moi, je voulais parler, pour terminer, des expériences de jeu de Mintworks. Un jeu, comme j'ai dit tantôt, on a reçu là, Kickstarter c'est dans les dernières semaines. Et c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, sorti en 2017. Je vais me répéter encore, Kickstarter. Et par Justin Blask. Et c'est un jeu édité par 524 Labs. Qui est une durée de 10 à 20 minutes. Et c'est un placement de travailleurs. Donc un placement de travailleurs très rapide. J'en connaissais pas et c'est vraiment très intéressant. Donc, pour expliquer le fonctionnement, c'est en fait, c'est lui qui va avoir le plus d'étoiles à la fin de la partie qui va gagner. Mais comment que ça déclenche la fin de partie? C'est lorsqu'un joueur atteint 7 étoiles, on termine le tour en cours. Donc, il y a une possibilité de dépasser le joueur qui a plus que 7 étoiles, mais c'est le joueur qui a le plus d'étoiles à la fin qui remporte la partie. Et au cours de la partie, on va construire notre petite ville là, qui va comporter des bâtiments qui vont nous donner certains avantages, qui vont nous donner des travailleurs au début de chaque tour ou qui vont nous donner justement des étoiles pour réussir à gagner. Il y a différentes actions qui sont disponibles dans le jeu. Donc, il y a en fait, ce sont des cartes qui comportent des petits ronds où on peut mettre nos petits travailleurs qui ressemblent à des petites mantes. C'est des petits rondelles de bois peintes en blanche là, qu'on dirait qu'on peut les manger.
Oui, vraiment.
Moi, quand j'ai ouvert la boîte, là, si vous allez voir le déballage, je pense que c'est ça que je dis. On dirait vraiment des petites mantes. Ouais. On a le goût de.
Ben, je sais pas si tu l'avais mentionné, mais juste la boîte de jeu, c'est.
Ben oui, c'est contenant oui, c'est de vrai. Mante, oui, c'est
comme
ça.
Si
c'est le concept du jeu. Là.
Ouais, c'est un jeu portable.
En fait, c'est un jeu qui est. Si je me trompe pas, ça vient d'un concours de jeux de Mintbox.
Okay.
De boîte de menthe. Donc, le but, c'était de faire des jeux qui rentrent dans une boîte comme ça.
Okay.
Si je ne me trompe pas, je crois que c'est ce jeu-là.
En tout cas, ça rentre très bien dans une poche.
Oui, c'est ça.
Quelqu'un pourrait penser que c'est vraiment une boîte de menthe.
Oui, effectivement.
Et se casser les dents sur...
Bon, avant, il y a des cartes dedans. Là, il va peut-être se poser des questions, en tout cas. Et donc, dans les différentes actions qu'on peut faire, ce sont des cartes qui vont nous dicter les actions qu'on peut faire où on peut aller placer nos travailleurs. Donc, on peut recevoir des travailleurs, acheter des bâtiments, construire des bâtiments, donc le but principal du jeu. Il y a différents types de bâtiments. Il y en a 4 types. Il y a les bâtiments de culture, de production, de utilitaire et des types de propriétés qui vont nous donner, en fait, les types de propriétés, ça nous permet de contrôler une des cartes d'action. Ou si un joueur va là, à la fin du tour, en fait, au début d'un prochain tour, on gagne des travailleurs de plus. Donc, c'est une façon de produire des travailleurs. Comme je disais, les cartes production, c'est souvent axé sur la production de travailleurs. Donc, au début d'un nouveau tour, tout le monde reçoit un travailleur de base, plus ceux qui lui restaient au dernier tour. Mais il peut aussi en produire avec ces cartes-là. Donc, c'est un moyen d'augmenter notre nombre d'actions qu'on pourra faire. Lorsqu'on va acheter des bâtiments, en fait, il va falloir payer un nombre de travailleurs dépendant du coût de la carte. Ça va de 1 à 4, 1 à 5, 1 à 5 travailleurs. Donc, plus la carte requiert de travailleurs, plus elle est payante, plus elle permet de faire des points de nombre d'étoiles ou des avantages très intéressants. On joue en tour par tour jusqu'à temps que tous les joueurs aient passé consécutivement, puis ensuite on fait un nouveau tour. Et la partie termine, là, comme j'ai mentionné tantôt, lorsqu'un joueur a atteint 7 étoiles, on finit le tour en cours et lui qui a le plus de points remporte la partie. Donc ça joue très rapidement. Là, je pense on a fait deux parties consécutives en moins de
10 minutes.
C'est 10 minutes, ouais. On parle de 10 à 20 minutes, mais je pense que c'est plus autour de 10 minutes facilement. Donc au point de vue de mon appréciation, moi je trouve que c'est un très bon jeu pour introduire le placement de travailleurs. C'est très rapide, comme on dit. Là. Si la personne n'aime pas ça, ben elle va le savoir tout de suite, puis ça n'aura pas pris 2 heures. Souvent des jeux de placement de travailleurs, on parle facilement d'une heure et plus. Là, une heure et plus. Et très portatif, très rapide à jouer aussi, comme je disais. On peut jouer plusieurs parties consécutives. La variante solo, la variante solo est très bien. Là. On joue contre un joueur artificiel, donc il y a 4 différents joueurs artificiels contre qui on peut se battre. J'en parle souvent là, des variantes solo. Moi, j'aime bien quand on se bat contre quelqu'un et non qu'on fait le plus de points possible. Mm-hmm. Donc ça, j'apprécie bien. Puis ça ajoute très bien aussi encore là en 10 à 15 minutes. Puis les niveaux de difficulté sont quand même intéressants. Je crois pas qu'ils ont... En fait, je dis des niveaux de difficulté, mais ils ont différents pouvoirs, les 4 intelligences artificielles. Mais je pense pas qu'il y a vraiment de niveau de difficulté défini, là. Mais je crois qu'il y en a qui sont plus difficiles que d'autres. Il y en a une que j'étais vraiment loin de réussir à gagner, tandis qu'un autre, j'ai réussi à battre un peu plus difficilement, mais quand même, j'ai réussi à gagner pareil à la première tentative. Question que je me pose à propos de ce jeu-là, à quel point on va pouvoir y rejouer souvent? Mm. Est-ce que ça va venir... Tu sais, il n'y a pas énormément de cartes différentes. En fait, les options sont souvent les mêmes. On peut rajouter des cartes spéciales qui rajoutent quelques options à chaque partie. Il y a 2 cartes qui rajoutent 2 options, mais il y a 4 cartes comme ça. Donc, au final, au bout de peut-être 10 de parties, on va avoir passé toutes les possibilités d'action possibles. Donc, je ne sais pas si ça va se jouer beaucoup, vu qu'en plus, c'est un jeu rapide. Donc, souvent, on enchaîne quelques parties consécutives. Je me pose cette question-là, mais c'est quand même un jeu qui va s'amener très bien en voyage ou quoi que ce soit, là, très portatif. Puis un placement de travailleurs, donc ça, c'est le fun.
Ouais, ça fait changement des autres petits jeux de cartes qu'on a, là.
Ouais, c'est ça. Souvent, c'est les jeux rapides, c'est The Game, un jeu de cartes. Ouais. For Sale, un jeu de cartes. Tu sais, c'est souvent des jeux de cartes.
Ouais.
Ouais. Est-ce que tu avais des points à rajouter à ça?
Ben moi, on a joué 2 parties d'à peu près 10 minutes chaque. Ouais. Fait qu'en gros, j'ai joué au jeu 20 minutes dans ma vie. Fait que c'est sûr que j'ai pas énormément de commentaires, mais je trouve que c'est vraiment cute et sympathique. Mm-hmm. Mais ça reste quand même un jeu intéressant. Mais comme toi, je pense que quand on va avoir joué plusieurs parties, on va savoir c'est quoi les bâtiments qu'il faut absolument aller chercher pour gagner. Puis ça va vraiment vite, là, les parties... dans le sens que il faut agir vite pour aller chercher qu'est-ce qu'on a besoin, mm-hmm. parce que c'est à 2 joueurs. Est-ce qu'il se joue à plus que 2 joueurs?
Oui, il joue jusqu'à 4.
Il faudrait peut-être l'essayer à 4 joueurs, ça serait pas mal différent. Mm-hmm. Parce qu'à 2, on dirait, ben ça me fait penser un peu à Citadelle, là.
Ouais.
On avait déjà mentionné que sûrement qu'après plusieurs parties, tu sais exactement qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour gagner à 2. Mm-hmm.
Ouais.
Fait que j'ai l'impression que c'est ça aussi.
Ouais, je pense que ouais aussi.
Il y a un bâtiment, entre autres, que je pense que t'es allé le chercher les 2 fois puis t'as gagné 2 fois.
Ouais,
en tout cas, il y en a un en particulier qui fait, ben dans le fond, il fait 1 étoile par bâtiment
que t'as déjà en possession.
Que t'as. Mm-hmm. Fait que ça prend vite. Juste 7 points pour gagner. Si t'as déjà 3-4 bâtiments, tu vas chercher ça, ben.
Ouais.
Ça change toute la partie. Juste en allant chercher cette carte-là, ça change tout.
Mais elle coûte beaucoup de travailleurs. Il faut tailler une production aussi. Il y a une espèce stratégique.
J'ai beaucoup aimé. Là, puis le design, là, c'est vraiment super. Là, très bonne idée. Je trouve ça vraiment cool.
Ouais, très cool ce petit jeu-là. Mintworks. Vous allez aller jeter un coup d'œil à ça. Je ne sais pas s'il va sortir en magasin éventuellement. J'en ai aucune idée. C'est un Kickstarter. Des fois, ces petits jeux-là, ça ne se rend pas jusqu'ici. Peut-être que vous allez le trouver en ligne ou quoi que ce soit. Là, si on voit ça passer, on vous en fera part dans un futur épisode. Et ça termine aussi là, nos expériences de jeu pour cet épisode-ci.
On va maintenant conclure l'épisode en vous parlant d'un projet québécois qu'on trouvait qui est vraiment une très belle initiative dans la ville de Québec. C'est un groupe Facebook qui permet de faire de la location de jeux de société. Donc, il y a 3 personnes qui ont rendu leur collection de jeux disponibles à la location sur cette page-là. Pour les coûts, ben ça coûte 5$ par jeu pour les jeux, on peut dire, réguliers, et 10$ pour ceux qui ont une valeur de plus de 100$. Les gens demandent un dépôt de 20$ pour les jeux réguliers et 40$ pour les jeux qui coûtent 10$ à louer. La 5e location est gratuite. Les locations, c'est une durée de 5 jours. Et dans le fond, les jeux, tout dépendant là, de la personne qui les offre en location, sont disponibles à 3 endroits, Val-Bélair, Charlebourg et Vanier. On peut communiquer avec le propriétaire du jeu pour le réserver et fixer un rendez-vous pour le louer. Des exemples de jeux intéressants qui sont disponibles, il y a Capitaine Sonore, Isle of Sky, Marvel Legendary, Mysterium, Patchwork et Robinson Crusoe. Mais il y a vraiment beaucoup de choix. Mm-hmm. Là, il y a environ 90 jeux qui sont disponibles et ça augmente tout le temps. Mm-hmm. Donc, on trouve ça vraiment intéressant. On ne l'a pas encore essayé, mais c'est à venir, certainement.
Mm-hmm. Oui, effectivement.
Puis, on voulait partager ça avec vous, là, si vous êtes dans la ville de Québec et que vous voulez essayer un jeu, mais vous ne voulez pas nécessairement l'acheter. Je trouve ça vraiment une très belle initiative. Ouais,
très bonne idée, effectivement, parce qu'on sait que les jeux sont de plus en plus chers. Donc, des fois, c'est fun de pouvoir l'essayer avant de l'acheter, effectivement.
Ouais. Ça coûte encore moins cher qu'une soirée dans un pub ludique pour aller l'essayer. On n'a pas besoin de manger ou de boire essayer.
Si on veut vraiment essayer un jeu en particulier qu'on le sait, je pense que c'est une belle option.
Ouais.
Et on va aussi terminer l'épisode là-dessus. Donc, encore une fois, merci de nous avoir écoutés, de nous suivre. N'hésitez pas à partager le podcast, à nous mettre des étoiles sur iTunes. Je le dis jamais, mais je pense que ce serait le fun d'en avoir aussi, de laisser des commentaires aussi sur cette plateforme-là si vous nous écoutez via iTunes. Merci. Très content encore pour ce nouvel épisode-là.
Oui, merci pour votre écoute. À la prochaine.
Bye bye.